Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Vous savez de quoi le monde a besoin ces jours-ci? Oui, d'accord, de paix, d'amour, de compréhension. Non mais, plus concrètement, eh ben, je vais vous le dire, d'une bonne comédie musicale. Une bonne comédie musicale, vous arrivez un peu déprimé, vous ressortez avec la banane, l'envie de faire des claquettes sur le trottoir et de chanter à tue-tête dans les rues. Vous me direz que c'est l'effet produit par la grande majorité des spectacles dits vivants, quand ils tiennent leur promesse, à savoir de nous faire sentir vivants. Mais là, celui dont nous allons parler aujourd'hui avec ses deux metteurs en scène, Marina Hans et Serge Bagdasarian, joués à la Comédie Française et intitulés « Mais quelle comédie ?» coche absolument toutes les cases. Il est joyeux, mélancolique, spectaculaire et intimiste. On y voit une troupe qui s'active pour que la vie continue quand elle est censée être sur pause. On y voit des comédiens qui rivalisent d'excellence, y raconter dans une mise en abîme subtile ce quotidien qui les oblige à jongler et composer entre leur art et leur vie, faire en sorte que le show continue d'avancer comme disent les anglo-saxons. Oui, c'est exactement de cela dont nous avons besoin, d'une bonne comédie musicale. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Marina Hans.
Bonjour Antoine, merci.
Et bonjour Serge Bagdasarian.
Bonjour Antoine.
Bonjour, bienvenue dans Pop Pop Pop. Ça vous fait quel effet de savoir que vous m'avez donné la banane et l'envie de chanter à tue-tête dans les rues?
Mais moi, je suis très charmée par ce que vous venez de dire.
Non, mais je veux dire, c'est le but.
Là. Mais bien sûr. Et c'était le but pour nous, dans un premier temps aussi. Mais c'était une envie de partage, c'est vrai. C'est-à-dire, on avait besoin de sentir que le public serait atteint et conquis et emporterait quelque chose avec eux.
Mais on est dans un effet particulier, Serge, en sortant de ce genre de spectacle. Il y a quelque chose d'autre.
Oui, c'est tout ce qu'on aime quand on va avoir une bonne comédie musicale, c'est que effectivement on a toujours le même monde qu'on a laissé avant de rentrer, mais d'un seul coup on a des verres correcteurs roses et puis on a, c'est ce que vous avez dit, on a envie de danser, on a envie de chanter, ça donne de la légèreté et puis un peu de vague à l'âme, mais très très positif. On extravague un peu, c'est bien.
On extravague, j'aime beaucoup ça. Moi, ça m'a donné également l'envie de faire des claquettes. Alors allez, je me lâche. Attendez, je m'éloigne un peu. 1 2 3
4. Ah ouais.
Pardon. C'est bon. Aïe. Pardon.
Ah bien, bravo.
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 Super.
C'est vraiment sans échauffement.
Non mais formidable.
Que oui. C'est un petit peu long quand même, Gisela Fontanus. Alors c'est exactement ce que vous ferez, chers amis auditeurs, après avoir vu Mais quelle comédie, la comédie musicale dont nous allons parler dans un instant avec nos invités Marina Hans et Serge Bagdasarian. Mais quand je vous vois tous les deux, eh bien je pense à un morceau chanté par Donald O'Connor, extrait de Singing in the Rain en 52, et c'est évidemment Make Them Laugh.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream. Take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. them laugh, make them laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make them laugh, make them laugh, make them laugh.
Make them laugh dans Pop 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 sur France Inter, extrait du mythique Singing in the Rain. Marina Hans, Serge Bagdasarian, avant d'en venir à la comédie musicale que vous avez tous les deux mise en scène à la Comédie Française, mais quelle comédie, je voudrais m'attarder un instant sur ce choix commun de travailler ce terrain-là. Parce que vous, Marina, vous avez la double nationalité franco-anglaise, donc naturellement, vous êtes sensible à un genre plus anglo-saxon que français. Vous y pensiez en vous rasant?
En mettant ma perruque, ouais, c'est vrai que c'est la culture qui m'a la plus touchée quand j'étais enfant. C'est la comédie musicale, c'est dès le départ, hein. C'est vraiment les premières chansons que j'ai apprises et tout ça en anglais, c'était ça. Et puis c'est aussi une forme d'humour.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement comme chez les Américains. Il y a beaucoup de lucidité quand même sur le monde et on réussit à faire une pirouette avec des sujets parfois graves ou pénibles. Ça reste quand même lucide, quoi. Et je suis très sensible à ça.
Ouais. Ouais. Quant à vous, Serge, si mes informations sont bonnes, dans une vie précédente, vous avez été professeur d'anglais.
Eh oui. Mm-hmm. Eh oui.
So we could as well do this interview in English.
Absolutely.
Yes.
We could do that. Yes.
Let's try a few sentences.
Yes, but this is France Inter.
Oh yes.
So we've got to speak French.
It's not England and there.
Okay. Non.
C'était pour
vérifier.
Vérifier. C'était pas non plus votre spectacle de 2016.
Oui.
Qui s'appelait Interlope.
Oui, l'Interlope.
Mais c'était
oui.
pas France Interlope. Oui. Alors tous les comédiens oui. sont heureux de retrouver la scène après ces mois de confinement, comme le public est heureux de retrouver enfin des comédiens ailleurs que sur Netflix. Mais là, la nature du propos s'y prête. On vous sent encore plus heureux et surtout avec le droit de le dire dès votre fracassante entrée en scène, Serge. Est-ce qu'il y a une émotion particulière pour vous deux hein, à l'aboutissement de ce projet ? Qui a été travaillé longuement pendant le confinement.
Oui, parce qu'il y a une vraie réflexion qui a été reportée une première fois puisque il était censé être créé après le premier confinement et puis il y a eu le deuxième confinement qui est arrivé 15 jours avant la première, donc ça a été un deuxième moment où on a refermé les pots de confiture avec toutes nos idées et puis on s'est dit mais tout ça va confire, ça veut plus rien dire au bout d'un moment et on était à la fois certains d'avoir touché quelque chose qui était très bien et puis en même temps totalement désespérés de pas pouvoir le montrer ouais, quoi, ouais. C'est comme si on avait cuisiné quelque chose de très bon et que personne venait manger. Donc,
vous avez pensé à un moment que le spectacle n'aurait jamais lieu, Marina ?
Oui, bien sûr. Non, je suis d'une nature optimiste, hein, faut pas croire. Non, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on répétait étaient très très particulières. Mmh. On était quand même dans un théâtre désert. Et on devait aller puiser cette énergie de joie, de volonté de partage, d'éclat, etc. Et ça, on a quand même réussi à le faire. Et même, je crois que ça nous a fait du bien. Et il y avait l'idée après que voilà, que ça ne reste pas un plaisir égoïste. Et c'était aussi ça, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir quand même. Moi, j'ai beaucoup survécu grâce aux répétitions de ce spectacle pendant toute cette période.
Marina, Serge, je suis absolument ravi de vous recevoir dans ce modeste studio hein, qui doit vous sembler bien rikiki, surtout sortant du plateau majestueux.
Oh, c'est bien, c'est cosy.
C'est cosy.
Confortable.
C'est central aussi. Mm-hmm. Alors, je fréquente pour ma part la Comédie Française depuis mon plus jeune âge. J'y ai vu des tragédies, jamais avec Serge d'ailleurs.
Mais non.
Et non, jamais. Ça vous travaille ça, hein ?
Ah, bah ça.
Ça viendra. Ça viendra pas d'ailleurs.
Ça viendra pas, évidemment
que
ça viendra pas.
Bien sûr que ça viendra.
Bah, bien sûr que non. comment
mais
ça serait ridicule.
Mais évidemment que ça viendra.
Oh là là.
Mais ce serait pas du tout ridicule.
Bon, ce qui est ridicule, c'est de ne vous avoir jamais distribué dans une tragédie. Enfin.
Ah bah non, non, mais moi je comprends très bien pourquoi.
Pourquoi
mais je pense que moi quand je vois mes camarades, quand je vois Eric Ruff par exemple, ou Elsa Le Poivre dans une tragédie, je vois des dieux, des princes, mm-hmm. des rois, mm-hmm. et je suis mais baba d'admiration devant eux. Et récemment, Eric m'a confié que c'était la même chose quand il me voyait rentrer sur scène dans un Phédo, où il se projette pas du tout dans un Phédo. Ouais. Donc je sais pas, je me suis habitué, et voilà. Donc je ferai pas de tragédie, c'est pas grave.
Enfin bon, je vous ai vu dans des comédies, des tragicomédies, à peu près toutes les grandes pièces du répertoire, mais c'est ma première comédie musicale à la Comédie Française. Il aurait donc fallu une pandémie mondiale pour que cette maison, cette honorable maison, se décide à y aller.
Bah, c'est-à-dire que alors dans la salle Richelieu, c'est vrai que c'est arrivé, c'est un énorme accident en fait, parce que c'était prévu pour Marigny.
Oui, c'était
ouais,
pas
à l'époque.
Prévu pour la salle Richelieu.
Hein, c'était pas du tout non, pour la salle Richelieu. Vrai. Donc on est rentré au répertoire de la Comédie Française, ouais. C'est-à-dire qu'on est au répertoire avec Victor Hugo, Molière et tous les autres. Il y a Marina Hans et Serge Bagdasarian.
Donc c'est une excellente nouvelle.
Mais c'est une excellente nouvelle, mais c'est surtout on a l'air d'être des imposteurs quoi, un peu.
Oui, oui.
De rien. Mais bon, c'est un heureux hasard parce que le format de la salle et le fait de dire toute cette histoire de la troupe dans cette salle-là, ça a vraiment beaucoup de sens, là, pour le coup. Ça rajoute quelque chose.
Marina, imposteur ?
Non, mais c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé par rapport à cette pandémie, c'est que il y a la web télé a été créée par Eric Ruff et on s'est retrouvés tous les acteurs, tout le monde s'est mis à organiser de façon hyper artisanale des petites rubriques, des lectures, des choses comme ça. Et il y a eu un lien qui s'est créé avec le public qui était assez fort où tout d'un coup ils franchissaient comme ça une sorte de barrière entre leur vie et ce qu'ils imaginent qu'est la vie des artistes à la Comédie Française, qui est un fantasme. Hein,
un pur fantasme.
Qui est un pur fantasme. Ouais, ouais. C'est surtout beaucoup, beaucoup de travail.
Ouais.
Et beaucoup de doutes et beaucoup de plein de choses, comme pour tout le monde, en fait. Et donc, la comédie musicale, elle s'est aussi construite autour de ça, c'est-à-dire pour garder un sentiment de proximité avec nous, avec le public, enfin, qui est quelque chose de beaucoup plus à échelle d'hommes, quoi, et de femmes sur ce plateau.
Avant de parler du spectacle lui-même et des raisons qui vous ont poussé à le faire, il faut revenir un peu dessus, je voudrais savoir pour l'un et pour l'autre, quel plaisir particulier vous éprouvez avec ce genre extrêmement codifié qu'est la comédie musicale. Est-ce que vous abordez ça comme une pièce plus conventionnelle? Est-ce que vous y allez dans quelle humeur sur ce plateau?
Alors moi je dirais que c'est la relation au public qui est très différente.
Oui.
C'est vraiment, moi j'apprends à intégrer le public complètement dans ma sensation, même dans la manière d'adresser une chanson, une danse. Il y a quelque chose qui est quand même vraiment dirigé vers le public, et ce qui est la plupart du temps pas le cas quand même dans le théâtre plus traditionnel.
Serge, vous avez eu le temps de réfléchir à votre réponse.
Non, non, mais je pense absolument la même chose que toi. C'est vrai que c'est le rapport au public qui est très différent. C'est le fait de s'adresser à eux, d'interagir avec ce qu'ils sont en train de dire, de les interpeller quand ils sont en retard.
Mais
quand
Serge, il improvise énormément. Ouais. Hein. C'est un roi de l'improvisation. Et alors moi, je trouve ça tellement incroyable comme des acteurs ça, qu'il y a une interaction quand même. On est tout le temps dans le présent. Enfin, il y a le regard sur le public, l'écoute du public qui est permanente. Ça.
Ouais.
C'est partie aussi de ce moment, quoi.
Mais quelle comédie, cette comédie musicale? On en parle dans la suite de Pop Pop avec Charline Roux qui va nous rejoindre juste après un extrait de la BO, justement. C'est I Go To Sleep. C'est une chanson de Ray Davies reprise par Chrissy Hynde et ses Pretenders.
Thank you. France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux. Car oui, il vient de nous rejoindre dans sa sublime robe de Lucrèce Borgia.
Bien sûr.
Charline Roux, bonjour.
Je refuse de vous appeler Gennaro, je vous le dis tout de suite. Bonjour.
Charline, vous avez vu, nous avons vu quelle comédie, que pouvez-vous nous en dire? Que pouvez-vous en dire à ceux qui ne l'ont pas encore vu, justement?
Eh bien que c'est le spectacle le plus enthousiasmant que vous pourrez voir en cette rentrée, encore un peu morose, un spectacle musical avec de la comédie, mais aussi de vrais morceaux de vie dedans, une ode à la comédie musicale, mais aussi à la troupe. Les personnages, ce sont les acteurs qui se racontent eux-mêmes. Est-ce que vous les avez recrutés en fonction de leurs histoires respectives ou est-ce qu'ils sont venus à vous ?
Alors, on nous a donné une grande liste avec tous ceux qui étaient disponibles dans cette période-là. Et puis on a fait une sorte d'appel à candidature, quoi, tout simplement. C'est-à-dire, on leur a demandé s'ils voulaient bien venir faire du théâtre avec nous. Et puis, on a eu de nombreuses réponses positives. Donc c'était plutôt le mouvement inverse, oui.
Personne n'a été forcé, quoi.
Non, absolument personne.
Et personne n'a été laissé pour compte.
Je pense pas.
Il y en a plein qui voulaient jouer, on les a pas pris.
Peut-être, oui.
Et alors, une fois votre troupe montée, comment est-ce que vous avez scénarisé tout ça? Est-ce que les chansons ont déterminé la narration ou est-ce que c'est l'inverse?
Non, c'est l'inverse. Mmh. En fait, on est parti de parcours, on a fait des rendez-vous individuels avec chaque acteur, actrice. Et on a commencé à rêver avec eux autour de leur vie, de leur parcours d'artiste, de leur goût aussi. Mmh. Et en fonction de ça, on a proposé des chansons. Certains sont arrivés avec des chansons qu'ils voulaient chanter, d'autres sont arrivés avec des textes aussi. Donc ça s'est fait un peu dans les deux sens, mais c'était un dialogue permanent pour essayer de construire le numéro qui raconterait le mieux la personne.
Parce que c'est ça, c'est un mélange de standards, de chansons.
Mmh.
Ouais, absolument. Mais quelle comédie, à la Comédie Française, ça donne ça, ambiance.
Est-ce que tu veux des rires, ou tu veux voir mon rire, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Quelle comédie, Marina, Serge, que vous avez mise en scène. C'est un spectacle de la troupe de la Comédie Française, qui parle de la Comédie Française aussi. C'est la troupe dans la troupe, ce que j'appelle moi l'effet vache qui rit, mais aussi l'effet vache qui pleure, puisque nous, on parle de théâtre ici. On peut l'aborder comme ça?
Oui, c'est un spectacle qui a été construit avec ces acteurs-là, autour de la troupe et autour de la Comédie Française. Mmh. C'est pour le coup, là, on est vraiment dans le lieu qui est la salle Richelieu. On parle de la troupe qui séjourne et qui travaille là. Et puis on parle aussi des anciens qui sont passés par là. Et c'est nous aujourd'hui. C'est une photo instantanée, là, avec ce que chacun a ramené de ses fatigues, de ses réussites, de ses espoirs, de son enfance. Voilà, tout ça est rassemblé. Et c'est des choses, assez autobiographique pour chacun des acteurs quand même. Mmh. Oui.
Et c'est ce qui fait que ce spectacle est tellement émouvant aussi. C'est-à-dire qu'on en sort...
Oui, c'est-à-dire... c'était le pacte un peu qu'on a passé les uns avec les autres, de livrer des choses et de... La Comédie Française, c'est particulier, c'est un théâtre de répertoire, il y a une alternance, donc les acteurs sont toujours masqués en quelque sorte. On passe d'une époque à une autre. De leur demander de se démasquer pour une fois, c'était assez rare. Enfin, ça s'était pas beaucoup vu, cette chose-là. Mmh. Et moi, je sentais qu'il fallait pousser un petit peu, qu'il fallait que justement des acteurs qui travaillaient à l'intérieur d'une troupe, donc dans une grande conscience du collectif, acceptent de prendre leur moment et d'avoir leur moment à chacun pour eux. Moi, ça me bouleversait, ça.
Ouais.
Et Serge Bagdasarian, vous y êtes un monsieur loyal aussi éloquent, démesurément drôle que scintillant. Merci Christian Lacroix.
Ah oui.
Charge à vous de performer et de veiller au bon déroulement de la représentation. Un vrai rôle de composition où vous tenez ce rôle-là aussi au sein de la troupe. Et je peux poser la question aux deux.
Alors au sein de la troupe, non, parce que je suis comédien parmi les autres acteurs. C'est juste que là, pour le coup, je suis un peu effectivement une sorte de monsieur loyal dans le spectacle. Qu'on me repère parce que j'ai l'air d'être habillé comme un Ferrero Rocher tout en doré, donc on peut pas me
c'est sublime,
bout la facette, c'est très beau, c'est très joli. Ah oui, on peut pas me louper. Et pour le coup, c'est vrai que je peux tenser quelques-uns de mes, par exemple, monsieur et madame Toy Toy qui viennent faire un numéro
voilà, un petit peu à la Mireille Mirosca sur le plateau, je les chasse du plateau, tout ça. Bon, c'est un peu la règle du jeu, c'est ce qu'on voit souvent dans d'autres comédies musicales, hein, comme Cabaret et d'autres.
Vous n'êtes pas meneur de troupe dans l'âme?
Oh, bah non, quand même pas, je pense pas.
Confirmez, Marina?
Il a son petit tempérament.
Je pense qu'il est meneur de troupe dans l'âme, ça j'en suis persuadée.
Vous voyez, Serge.
Je pense qu'il pourrait l'être. Après, la Comédie Française, elle a un système, qui lui est propre. Mais Serge est meneur de troupe, meneur de cette équipe. Et moi, j'avais particulièrement envie. Alors, Serge, il faut savoir, hein, à chaque fois que je voulais le mettre au centre du plateau, il me disait, mais pourquoi? Mais non. Il faut que je me mette sur le côté. Quand je lui dis, il faut que tu chantes cette chanson en plus. Mais j'ai déjà deux chansons. Pourquoi tu veux que je chante une troisième chanson?
Ça, c'est les tragédiens, ça.
Voilà.
Vous paierez tout, vous. Hein.
Donc, alors, c'était quand même. Mais je pense que cette place lui va très bien. Mais c'est vrai que je lui ai forcé un peu la main. Ouais.
L'intention de départ d'Éric Ruff, c'était de créer, je le cite, un cabaret léger et poétique. Alors, ça a certes un côté cabaret, c'est léger, c'est poétique. Mais au final, vous avez accouché d'une comédie musicale. Est-ce que les coulisses d'une troupe au travail, c'est un prétexte idéal?
Ah oui, ah mais c'est tout ce qu'on aime montrer, parce que moi je sais que depuis des années, je suis très spectateur de ce genre de choses. Quand je vois ça chez Bergman par exemple, ou chez Fellini, quand il fait Prova d'orchestre, hein, quand il fait des choses comme ça, moi j'adore voir les artistes se préparer. Beaucoup d'artistes ont parlé de ça, Bob Fosse a fait ça énormément aussi, et c'est toujours passionnant. Ginger et Fred, c'est passionnant aussi de voir des artistes de music hall qui se préparent, des vieux artistes. C'est un plaisir total de montrer ça sur une scène à Richelieu, c'est formidable de faire ça. Et je suis sûr que ça participe du succès de ce spectacle, parce que notre public nous connaît bien. On a parmi notre public aussi beaucoup d'abonnés qui connaissent par cœur la troupe. Et d'un seul coup, ils découvrent des choses qu'ils ne pensaient pas vraies, quoi, et possibles.
Parmi les titres interprétés sur scène, Big Spender, Don't Rain on My Parade, Mine Hair, Hopelessly Devoted to You, Gotta Dance, des chansons qui côtoient Si Maman Si, Moi Je Veux Mourir Sur Scène, Mon Truc en Plume, Avant de Nous Dire Adieu. Alors des chansons à voix et des chansons à interprétation, quelles sont celles qui ont été les plus compliquées à mettre en scène?
Marina.
Je pense que c'était toujours plutôt les grands mouvements d'ensemble. Je crois que la chance qu'on a quand même là, c'est qu'on a des interprètes extraordinaires. Donc ils ont quand même cette chose-là, voilà, qui fait qu'on n'est pas dans la comédie musicale carton-pâte comme on peut parfois le voir, un peu avec le sourire ultra bright, le côté un petit peu faux. Là, les interprètes, ils ont cette fraîcheur qui est très belle. En revanche, de justement par moment de nous mettre tous ensemble sur des pas de danse et des chœurs et vraiment les grands mouvements d'ensemble et tout ça, ça on a bossé, je peux vous dire, et on continue régulièrement à retravailler, à faire des raccords et tout ça, à se le redire, parce que ça, c'est d'être dans le tempo, le tempo musical de la danse et tout ça, c'est...
Non, puis les chansons d'apparence légère ou de répertoire extrêmement connu sont pas nécessairement les plus faciles en réalité, j'imagine.
Tout. Pas du tout. Quand on voit Anne Kessler chanter comme ça, a cappella, Je veux mourir sur scène, c'est d'une difficulté. Elle se coltine à un truc, là, vraiment... Ouais. Très compliqué, et elle atteint un degré d'émotion
et de fragilité
totale et d'exposition de ce qu'elle est en tant qu'actrice et en tant que femme même, que je trouve bouleversant. Moi, tous les soirs, je suis, j'ai les poils, quoi. Enfin, pardon de dire une chose un peu triviale comme celle-là.
Sous le Ferrero Rocher.
Voilà, sous le Ferrero Rocher, il y a
le tragédien.
Bah oui.
Évidemment que vous avez les poils, on a tous les poils, rien de repenser à cette scène.
Formidable.
Bon, on va continuer à en parler, mais quelle comédie, c'est à découvrir à la Comédie Française, et c'est jusqu'au 3 janvier, on continue à en parler dans quelques minutes, mais pour l'instant il est 16h, allez 30, c'est l'heure des Pop News.
Un premier extrait du nouveau titre d'Adèle, Easy on Me, oui, il vient d'être dévoilé, laissé à la superstar britannique elle-même, qui en a parlé ce week-end sur Instagram. Précise que c'est un album de divorce. Autant vous dire qu'il va y avoir de la balade. Le single sera dispo dans son intégralité ce vendredi en ce qui concerne le nouvel album de la femme aux 15 Grammys qui pourrait s'appeler 30, pas encore de date officielle de sortie.
Pour la 4e année consécutive, la FNAC et France Inter s'associent pour remettre le prix BD FNAC France Inter. Et devinez qui va vous faire baiser l'anneau. La liste des 22 BD en lice vient d'être dévoilée. Parmi eux, quelques auteurs passés par ce studio: Bastien Vives pour son Corto Maltese, Simon Sprut pour le Tambour de la Moscova, ou encore Virginie Augustin et Hubert pour Joe le Pirate. La liste complète des nommés est à retrouver sur prixbdfnacfranceinter.com, et c'est aussi sur ce site que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 14 octobre pour devenir membre du jury. Les noms des finalistes seront annoncés le 9 décembre. Le nom du lauréat sera révélé, lui, le 6 janvier 2022 en direct dans Pop Pop Pop.
Après avoir été footballeur, star du catch, héros de films d'action, après avoir chanté en dessin animé dans Vaiana, désormais il rappe. Lui, c'est Dwayne The Rock Johnson, venu poser son couplet sur le titre Face Off du rappeur Tech N9ne. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in some morning in my veins, my culture banging, we're strange. I change the game, so what's my motherfucking name? What they gonna get though? Desecration, defamation. Adèle The Rock de salle, deux ambiances. Pour ceux qui préfèrent Dwayne Johnson, acteur, il sera le 12 novembre aux côtés de Gal Gadot et Ryan Reynolds dans Red Notice, dont on vous a déjà parlé ici.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Moi, j'aime moi.
Le parrain.
Mais oui, bien ouais. sûr.
Mais la c'est voix étonnant, il a toujours le
de
même
Marlon
accent.
Bordeaux, parce que je suis le parrain du prix BD FNAC France Inter.
Ah, un peu Jean Lassalle encore. Ouais.
Merci, Charline. Alors, je chausse à nouveau mes chaussures de claquettes pour me replonger dans l'univers de mes quelques comédies, la comédie musicale de nos invités Marina Hans et Serge Bagdasarian. Alors, je vous écoutais parler de cette comédie française, de cet esprit de troupe absolument singulier hein, qui anime cette compagnie comme plein d'autres. Mais enfin, la comédie française, c'est vraiment un cas particulier. La devise de la comédie française, simul et singulis, c'est-à-dire être ensemble et être soi-même, ça date de 1682. Elle a jamais été aussi bien portée, non?
C'est pas possible de faire autrement, de fait, dans cette comédie française, que d'abord d'apporter chaque acteur apporte tout son talent, tout son savoir-faire, évidemment, et puis en même temps doit totalement avoir présent à l'esprit le travail en commun, et puis cette maison, quoi, qui est une grande maison avec des valeurs historiques très anciennes, et puis voilà, on reçoit ça comme un cadeau, et puis on doit le transmettre, la comédie française aux générations futures de la manière la plus
c'est une vraie responsabilité
propre possible. Bah bien sûr que c'est une grande responsabilité, bien sûr, évidemment.
Mais c'est moi je trouve Marina. Parfois, enfin, ce que j'aime particulièrement, c'est la considération quand même de l'acteur dans cet endroit. C'est quand même la maison des acteurs, et je pense qu'on a traversé des décennies où on était plus, on glorifiait l'auteur, on glorifiait le metteur en scène, on glorifiait comme ça des grands chefs. Et moi, j'adore l'idée des acteurs ensemble, sont des gens de terrain. Et j'aime bien ce qu'ils ont à dire, et sont des gens qui travaillent beaucoup. Et voilà, j'aime bien cette mise en avant quand même de cette profession.
Mais est-ce que ce serait pas une bonne idée de faire sortir cette devise, être ensemble et être soi-même, des murs de la comédie française? Est-ce qu'on peut lancer une campagne Hans Bagdasarian 2022?
Alors non, personnellement non pour 2022,
mais pour la suite,
oui, ça, on devrait toujours avoir l'intérêt commun, et puis trouver notre propre ligne là-dedans, notre propre fil à plomb, évidemment, ouais. Évidemment.
Ce qui fait l'originalité aussi de ce projet, c'est que vous l'avez travaillé hors les murs, puisque la salle Richelieu était en travaux à l'époque, en plein confinement. Et ça ajoute encore à la fragilité quasi artisanale du projet.
Oui, à la liberté aussi qu'on a ressentie au moment où on a élaboré ce projet. On est quand même, on avait une sorte de carte blanche qui était donnée par Eric Ruff, l'administrateur. Enfin, il a jamais rien vérifié, il n'est jamais venu pour il a peut-être rien du tort d'ailleurs. Il aurait peut-être dû nous dire non, là, attendez là. Mais on a eu une sensation de liberté. Il n'y avait que nous, les techniciens. On était aussi très mélangés les uns aux autres. Ça, c'était quand même assez fou.
Ça, c'était formidable. Ouais. C'était une vraie chance que d'être à Marigny, que de pas être dans notre maison historique, parce que de fait, on était à l'extérieur, un peu dans la situation de Molière quand il s'y retrouvait. Évidemment, on ne compare rien là, hein, mais dans un esprit de vraie troupe, dans un endroit qui n'était pas le nôtre, à cohabiter dans des loges qui ne sont pas les nôtres. On est installé de manière très confortable à Richelieu, là on l'était moins à Marigny, et c'était très bien. Et avec toutes les équipes techniques autour de nous, on mangeait ensemble. Enfin, il y avait quelque chose de très dans le partage. qu'on a moins dans la maison historique. Là, d'un seul coup, on était tous ensemble et ça faisait du bien sur un spectacle comme celui-là qui raconte la troupe.
Mais quelle comédie, c'est musicalement extrêmement réjouissant, c'est très drôle, toujours pas remise du Serge Le Cœur antique et prêt. Magnifique. C'est aussi souvent très émouvant. Par exemple, quand Julie Sicard raconte la difficulté de concilier enfant et représentation, ou quand Elsa Le Poivre joue trois rôles dans la même journée tout en attendant un message téléphonique qui n'arrive pas. Est-ce que l'idée, c'était aussi d'explorer tous les registres de la dramaturgie?
Oui, parce que dans la comédie musicale, à travers le filtre de la comédie musicale, on peut parler de choses extrêmement légères, extrêmement joyeuses, et on peut parler de la profondeur et des gouffres humains les plus profonds et les plus insondables. On peut le faire avec la musique. On a ce vecteur-là qui, à un moment donné, introduit de manière absolument directe, en 3-4 minutes, une histoire, un univers, une détresse parfois, et on ne s'est pas privé de ça dans les spectacles, en tout cas.
Vous ne vous êtes jamais blessé avec le cœur antique, parce qu'il y a une prise de risque.
Vous voulez que je vous montre mon dos? Et mon dos est
c'est fait sans
bleu.
Protection, hein, je connais.
Mais bon, sans filet.
Sans filet.
Et on parlait en début d'entretien du bon déroulement du spectacle qui vous incombe, Serge Bagdasarian. Pardon, c'est pas anodin, puisque le soir où nous, on est venu vous voir, il y a eu un souci de micro, celui de Sylvia Berger, qui nous a permis d'assister à un spectacle. Dans le spectacle, en l'occurrence, un formidable monologue de Nicolas Lormeau, orchestré par vous-même. Une impro démonstration d'excellence, façon la comédie française. Et encore une fois, on sent un énorme plaisir de votre part à jouer de ces micro-accidents. Est-ce que c'est le cas?
Mais c'est de l'or, c'est de l'or en barre. Quand ça arrive, d'abord, les gens nous disent, mais c'est fabuleux d'avoir pensé à mettre ça en scène, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque c'est un accident.
On a cru, bien sûr, au début, c'était dans la pièce.
Les gens, en général, sont persuadés que ce genre d'accidents sont des choses voulues, mais absolument pas. On les rattrape bien. Et puis surtout, quel talent, Nicolas Lormeau, d'avoir su. Il m'a dit, il vous a quand même dit, je m'en vais sur, je vais dire Cyrano, et il a quand même sorti, c'était quoi, Victor Hugo?
C'était Ruy Blas.
C'était Ruy Blas.
Et puis il nous a dit après, je sais pas pourquoi, j'ai dit que j'allais faire Cyrano, et puis c'est Ruy Blas qui est sorti. Voilà. C'est vraiment le catalogue. C'est sorti sur le mauvais.
Et il avait tout en tête, quand même. Il est fabuleux.
Et vous avez choisi de raconter les coulisses de la comédie française. Est-ce qu'il y a eu un moment, la tentation de raconter aussi les coulisses de cette création en particulier?
Non. Je crois pas, hein. Marina.
Non, ça, c'est pour dans 2 ans.
Exactement. On prend notre ticket, nous, déjà.
On pourrait, parce que ce qui était intéressant, c'est de voir, par exemple, les précautions des acteurs sur ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils pouvaient pas dire, les choses dont ils pouvaient parler. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette chose que moi, j'adore chez les acteurs, c'est la pudeur. J'adore la pudeur chez les acteurs. Et des moments où ils se sont dit, voilà, finalement, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas te parler de ma relation à mes parents, de plein de choses très différentes. D'un seul coup, tout ça a été éloigné. Et bien sûr, on a respecté tout ça à la lettre.
Vous qui connaissez bien les comédies musicales, est-ce que vous avez une comédie de référence absolue à laquelle vous revenez toujours, Marina, Serge?
Moi, je crois que c'est Chantons sous la pluie, vraiment. Mais ça, c'est cinéma, vous vouliez dire,
oui,
de
cinéma,
plateau,
ou cinéma, ou non, ou musical.
Moi, je crois que c'est Chantons sous la pluie, mais aussi parce qu'il y avait, mais d'ailleurs, il y a Got to Dance dans le spectacle. Toujours cette idée des artistes au travail. Je pense, moi, ça me fascinait beaucoup. C'est toujours un remède, je trouve, à l'iconisation comme ça des artistes. On les présente toujours comme des personnes inaccessibles ou, je sais pas, je trouve toujours ça tellement un peu bizarre et pas très intéressant. Et c'est beaucoup plus beau quand c'est montré comme un choix de vie, comme un risque, comme une manière de flamber aussi, de voilà.
Serge, vous avez le temps de réfléchir?
Ah bah oui, non mais alors pareil, moi c'est Chantons sous la pluie. Et puis c'est aussi des trucs que personne connaît, comme Graffiti Bridge de Prince, que j'adore. Enfin, il y a des trucs... d'un seul coup, il se permettait, avec sa flamboyance, de faire des choses incroyables, voilà, des choses comme ça, oui.
Bien, mais quelle comédie, c'est à voir de toute urgence à la Comédie Française, en ce moment même, et cela jusqu'au 3 janvier.
Ça ne peut que faire du bien, peut-être vraiment.
Même, et peut-être même qu'on va y retourner.
Ouais.
Ah oui, revenez.
Marina Hans, Serge Bagdasarian, dans la suite de Pop Pop Pop, nous parlerons de...
La papesse... Calme et précise.
Est-ce que c'est déjà arrivé dans cette comédie française depuis 1680?
Excuse-moi, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est la papesse qui t'a envoyé pour me balancer toutes ces conneries.
Parlerons de Queen, de Proust, oui, on peut parler de Queen et de Proust dans la même émission, mais aussi de la série Mytho, de Game of Thrones, de Téléchat et de bien d'autres choses. Ce sera juste après le morceau de Lil Nas X avec le rappeur Jack Harlow, Industry Baby.
Yeah. can't take it to 10. Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on you, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they waiting for, all run from nothing, dog, get your soul. One with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see ya, huh. I'm a pop nigga like Bieber, huh. I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitches like me dear. Yeah, yeah, yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion.
Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts. Wish he could but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control, said I would then I made it so. I don't clear up rumors, where's y'all sense of humor? I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers, I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer, I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over.
Industry Baby, c'est un morceau signé Lil Nas X avec Jack Harlow. Bonne prononciation ou pas, Serge?
Oh, c'est très très bien, et puis c'est un très bon morceau, c'est très bien.
Avec un très beau clip, façon comédie musicale très nue, très très nue.
Très chaud, très bien.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ce sont Game of Thrones, c'est ce qui vous évoque la pop culture, Serge Vagdasarian.
Oui, parce que... Oui.
Expliquez-nous pourquoi.
Bah, c'est tellement éloigné de moi, je suis pas tellement... Enfin voilà, c'est tout ce que je déteste en fait, et en fait je me suis fait happer, parce qu'on a... Quelqu'un de proche de moi m'a dit, mais tu dois passer la première saison, après tu vas voir, tu ne pourras plus, voilà. Et donc j'ai débarqué sur cette série alors qu'elle était diffusée pour sa sixième saison, et après je me suis retrouvé à me lever à 3h du matin pour avoir l'épisode de la semaine devant OCS, c'est tellement pas moi de faire ce genre de choses, mais j'étais passionné, pendant 2 ans j'ai vécu comme ça, voilà c'était formidable.
Et bien, passons des dragons au minou avec votre son à vous Marina. Cette émission est une terre de contraste, donc Téléchat, cette émission...
On est très complémentaires avec Serge.
Cette émission présentée
c'est pas
par,
moins violent. Hein.
Présentée par le chat Groucha et l'autruche Lola, qui vous évoque la pop culture. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît, Marina.
Je sais pas, ça m'est venu comme ça, peut-être parce que pour moi, c'était vraiment une émission ultra libre, en fait, qui était proposée aux enfants, mais qui avait tellement rien de conventionnel et que les gens adoraient, qui était à la fois un peu angoissante, un peu...
Très étrange.
Oui, ouais. On était quand même dans le royaume de l'absurde, avec ce chat qui avait le bras dans le plâtre et des choses dedans, et des gluons, des objets qui revendiquaient des choses. Et je me souviens que j'étais passionnée par ça. Et la pop culture, pour moi, ça a toujours été une forme de transgression quand même. Ouais. C'est-à-dire que sur laquelle on se met d'accord, tous. Donc voilà, très anti-conformiste en fait.
Très bien, mais écoutez, j'ai du Game of Thrones et j'ai du Téléchat. Marina Hans-Serge Bagdasarian, il est 16h45, ça tombe bien, c'est l'heure de votre pop-list. Un livre, un film, une musique, une série, voilà ce que vous allez nous conseiller. Votre livre du moment, Serge Bagdasarian, c'est le dictionnaire Khazar. C'est un roman de l'écrivain serbe Milorad Pavic, publié en 84, traduit en français en 88. Charline, ce n'est pas à proprement parler un dictionnaire, mais ça parle assurément des Khazars, si tant est que le Khazar existe, bien sûr.
Effectivement, sous forme de dictionnaire, le livre raconte l'histoire et la dispersion du peuple Khazar, un peuple nomade et guerrier, fameux pour ses chasseurs de rêves, une narration du point de vue successif d'un rabbin, d'un derviche et d'un prêtre.
Serge Khazar, qu'est-ce que je raconte, non, Serge Bagdasarian? Alors, auriez-vous l'amabilité de nous en dire quelques lignes, s'il vous plaît?
Là? Oui. Alors, quand il me donna le rouleau de feuilles, son pouce effleura le mien et je frémis à ce contact. J'eus le sentiment que nos passés et nos avenirs se trouvaient dans nos doigts et qu'ils s'étaient rencontrés. C'est pourquoi, lorsque je me mis à parcourir le texte, en quelques instants, je perdis le fil de ma lecture, le mêlant avec mes sentiments.
Extrait du dictionnaire Khazar de Milorad Pavic. Votre choix du moment, pourquoi est-ce que ce livre vous touche tellement?
Il faut, c'est mon livre du moment, mais c'est mon livre du moment depuis
84.
Plus de 20 ans, et je le fais partager beaucoup, parce que c'est un livre qu'on peut lire de plein de façons différentes. C'est-à-dire qu'on peut le lire en allant de la page 1 à la page 400, linéairement, ou alors on peut le lire complètement dans le désordre, parce qu'il est constitué d'entrées comme dans un dictionnaire. Mm-hmm. Et on peut passer dans ces trois dictionnaires qui sont... Il y a un dictionnaire juif, un dictionnaire chrétien, un dictionnaire musulman, et on peut passer, selon les entrées, d'un dictionnaire à l'autre pour reconstituer une histoire légendaire de ce peuple khazar qui a disparu parce qu'il n'a pas su choisir une religion.
Il paraît qu'il y a même trois versions, une version masculine, une féminine, une androgyne.
Et une androgyne, ouais. Et on est maudit si on lit pas la bonne. Et maintenant, on n'est réédité que la version masculine. Mm-hmm. Donc, l'auteur a fait ça pour que les gens aient des choses à se dire, les hommes et les femmes et les non-genrés. Donc, c'est quand même magnifique d'avoir pensé à ça.
Passons à la série de Marina Hans, et c'est une série avec Marina Hans.
Ah oui.
Mais oui, il s'agit de Mytho. Alors, pas le Mytho de Serge, dont la saison 2 est en cours de diffusion sur Arte. Charline, oui. Nous avions parlé de Mytho avec sa créatrice Anne Berest, rappelez-nous.
Marina, vous y incarnez Elvira, une mère exemplaire, une femme dévouée qui pourtant se sent de plus en plus transparente aux yeux des siens et qui, pour retrouver un peu d'attention, va céder à la tentation d'un vilain mensonge.
L'ermite. Un individu qui se coupe du monde.
J'ai hyper envie de toi, là.
Ouais, je suis pas au top de mon hygiène dentaire en ce moment.
Tout seul, avec trois ados à la maison, je vous cache pas, c'est compliqué.
La papesse, calme et précise, elle attend son heure pour réussir ses projets.
Excuse-moi, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est la papesse qui t'a envoyé pour me balancer toutes ces conneries.
Le mensonge ne fait plus partie de notre famille, c'est compris ?
Mytho, la série d'Arte avec Marina Hans, notamment. Que pousse Marina Hans? Que pensez-vous de Marina Hans dans cette série?
Écoutez, moi je pense qu'il faut changer l'actrice pour la saison 3. Elle a beaucoup vieilli. Non, là vraiment... Et puis c'est ces éternelles coupes de cheveux qui ne font jamais, les couleurs de cheveux qui changent. Marina Hans est très contente d'avoir été castée pour cette série. Parce que vraiment, c'est... Voilà, pareil, c'est ce qui me touche. De temps en temps, il y a une équipe comme ça de créateurs qui se mettent ensemble et ça donne un petit ovni, une manière, voilà, une fiction originale où les rôles féminins ont une sorte de des aspérités un peu différentes que celles dont on a l'habitude, et puis où des sujets graves sont traités avec humour. Ça me tient quand même énormément à cœur. Donc à chaque fois qu'il s'agit de cette série, je suis très très reconnaissante d'avoir été embauché.
Ça s'appelle Mytho, c'est sur Arte. La saison 2 est en cours de diffusion. Donc, votre film du moment, à tous les deux, Serge Marina, c'est Guermantes. C'est un film réalisé par Christophe Honoré. Charline Proust n'est plus. Guermantes est lui bel et bien sur les écrans après avoir été un peu de temps sur les planches pendant un mois. C'est quoi cette histoire ?
Paris, été 2020, une troupe répète une pièce d'après Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est annulé, eh bien la troupe en question choisit de continuer à jouer malgré tout.
Pour l'instant, moi, j'ai reçu aucune instruction.
Il n'y a pas de première, on ne jouera pas.
À partir du moment où on sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas continuer à répéter.
Denis a accepté de faire un spectacle qui est Covid-compatible.
Pas bon.
Ah non, distanciation.
Est-ce que c'est déjà arrivé dans cette comédie française depuis 1680 ? Un spectacle qui n'existe pas.
Mais moi, je m'en fous, allez, on répète.
C'est absurde, c'est les musiciens du Titanic.
C'est pas insensé de répéter quelque chose, peut-être, juste pour vous.
Guermantes de Christophe Honoré. Alors là, le choix de nos deux invités, Marina et Serge, là, vous êtes d'accord là-dessus ?
On ne s'était pas concerté.
Non.
Non.
Ouais.
Alors lequel s'y colle en premier ?
Oh, Serge.
Serge. J'aime bien réfléchir. Quand
même. Non, mais c'était juste qu'on a eu énormément de chance d'avoir cette proposition à ce moment-là. On s'est senti vraiment privilégié pour le coup, parce que même d'une certaine manière, mettre le projecteur sur nos petites douleurs à nous, alors que le pays entier traversait cette épreuve, c'était même un peu trop. Mais bon, on a saisi cette opportunité parce que nous, on avait besoin aussi de continuer à créer et de le faire avec Christophe Honoré. C'était fabuleux parce que on tricotait quelque chose entre nos vies, vraiment, entre les choses qui étaient en train de nous arriver et puis une fiction qui était celle que Christophe nous proposait. Donc c'est très agréable de mêler le vrai avec le faux et de le faire avec un maître comme lui.
Marina, autant de bonnes raisons d'avoir Guermantes.
Ah oui, mais en plus, enfin cette pandémie, elle a vraiment, je trouve, elle nous a poussé, forcé à redéfinir la nécessité de jouer, la nécessité de monter un spectacle, de faire un film, parce qu'on est quand même, on fait partie d'une industrie. Il y a tellement de propositions, on fait. Bon, voilà, on nous propose des choses si on a de la chance. Et en fait, ce film raconte vraiment ça. C'est d'où part en fait le désir de créer, de proposer une œuvre aux gens. Et en fait, je me disais d'abord, ce film est d'une élégance folle. Et en plus, que cette chose-là, elle est nécessaire et il faudrait qu'elle soit là tout le temps, à vrai dire.
La beauté du geste.
La démarche, d'où ça vient, cette voilà.
Guermantes de Christophe Honoré. Et terminons cette pop-liste, Marina, avec vous. Il y a le morceau que vous avez choisi, c'est un classique.
Ouais.
Parmi les classiques, un Queen, The Show Must Go On. C'est un son qui a résonné dans votre tête pendant le confinement, en préparant la comédie
musicale. Toute ma vie.
Toute votre vie,
ah oui. Ouais. Oui, Freddie Mercury, cette brûlure, cet interprète incroyable. Oui, dans ces moments-là, je sais pas, moi j'ai l'impression de voir un grand mystique, je sais pas du tout, hein, je suis très athée en plus. Mais et Show Must Go On, c'est aussi lié à la vie, je crois. C'est pas que, alors pour le coup, on sort un peu de voilà, des artistes, on peut tout le monde peut chanter ça.
Et pour boucler la boucle, c'est devenu une chanson de comédie musicale, en l'occurrence dans Moulin Rouge.
Donc, oui, c'est vrai.
Mm-hmm. C'est vrai.
Et bien on va tous le chanter ensemble.
Tout le monde a le droit de le chanter celui-là.
The Show Must Go On.
Même mal.
C'est un morceau que vous nous avez donné envie d'écouter, mais tout de suite.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. We'll be right back.
Must go on dans Pop 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 sur France Inter. C'était le choix de Marina Hans et oui, il doit continuer le spectacle. Merci infiniment à tous les deux, Marina Hans, Serge Bagdasarian, d'être venus nous rendre visite aujourd'hui. Mais quelle comédie, c'est en ce moment même à la Comédie Française et cela jusqu'au 3 janvier. C'est plus que... qu'on trouve quoi comme adjectif là ?
Bah, c'est au-delà de recommander.
Ouais, c'est au-delà du recommandement. Voilà, foncez-y.
Pas quoi vous dire, moi.
Voilà, sans discussion. Merci, Charline. Merci. À demain. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans l'émission, l'écrivain Sacha Sperling vient nous rendre visite. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.